Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. Alors c'est toujours cette deuxième saison qui bat son plein maintenant, où on parle du quotidien, de votre quotidien, et en quoi le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer façonne ce quotidien avec des agents, fonctionnaires, contractuels extrêmement engagés qui rythment les temps forts de notre existence. Et aujourd'hui, nous allons parler de démocratie. Celle qui nous fait vivre, celle dans laquelle on vit tous les jours. Et heureusement, on l'oublie parfois, mais il suffit de regarder autour de nous, de regarder parfois d'autres pays pour comprendre à quel point il nous faut la chérir. Et au cœur de cette démocratie, il y a bien sûr les élections, un moment important dans la vie démocratique où on peut donner notre avis, on peut donner notre suffrage à une personne qui va porter notre conception de la société. Et c'est donc très très important, élections sénatoriales, européennes, municipales, présidentielles, il y en a tant et tant. Et pour nous en parler aujourd'hui, deux spécialistes de cette question. Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu travailles dans l'Essonne, à la préfecture, et tu es en charge du bureau qui s'occupe des élections et du fonctionnement de ces scrutins démocratiques. Est-ce que je peux te laisser te présenter? Tu le feras d'ailleurs bien mieux que moi.
Oui, bonjour. Merci Camille. Effectivement, donc, je suis Guillaume Adriani, je suis chef du bureau des élections et du fonctionnement des assemblées. Donc, j'interviens localement sur le territoire de l'Essonne pour procéder à l'organisation des élections politiques et professionnelles. Donc à ce titre, nous intervenons principalement pour conseiller les collectivités dans l'organisation de leurs scrutins, notamment les bureaux de vote. Nous intervenons aussi auprès des candidats et on a le rôle également de contrôler les candidatures. Et dans un troisième temps, on a un rôle actif dans l'organisation de façon plus globale, notamment dans tous les documents que vous recevez dans votre boîte aux lettres, à savoir, on y reviendra tout à l'heure, la propagande électorale.
Tu nous as dit énormément de choses. Toi, tu as un passé de juriste. Il faut être un bon juriste pour travailler sur ces questions.
Oui, tout à fait. La réglementation du code électoral est au cœur, naturellement, du dispositif des élections politiques. Donc, effectivement, j'ai un passé de juriste. J'ai été pendant une quinzaine d'années au ministère de la Justice, en tant que greffier, dans différentes institutions, la Cour de cassation et au défenseur des droits. Et après la réussite du concours de l'IRA, l'Institut Régional d'Administration, donc j'ai intégré la préfecture de l'Essonne au budget, puis effectivement au bureau des élections.
De ce que j'ai compris, tu es à la fois le garant des règles législatives, juridiques, et tu as aussi un travail de coordination, parce que tu nous as parlé des collectivités, ce sont les mairies pour partie qui mettent en œuvre les élections.
Oui, les mairies ont un rôle très, très important, parce qu'effectivement, ils sont au plus proche de l'opération de vote. C'est eux qui organisent, qui installent les isoloirs, les urnes, qui disposent des bulletins. Mais derrière les élections, il y a également toute une galaxie d'autres acteurs qui sont présents. On en reparlera vraisemblablement. Les différentes commissions qui sont présentes pour garantir la sincérité du scrutin, et également des prestataires qui sont très importants pour la distribution de la propagande électorale. Donc on reviendra effectivement sur si c'est fait à la main ou façon mécanisée, à savoir l'envoi des professions de foi qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres, qui est également un aspect très important.
Sébastien, tu nous accompagnes aujourd'hui aussi pour ce podcast. Alors, tu es le chef du bureau des élections politiques au ministère de l'Intérieur, mais tu as fait plein d'autres choses avant.
Oui, alors je suis effectivement dans ce bureau qui organise au niveau national les élections politiques, puisque c'est une particularité française, que ce soit le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de l'organisation des élections. Moi, j'ai eu un parcours où j'ai fait beaucoup d'histoire avant, puisque j'ai été professeur d'histoire-géographie pendant une dizaine d'années, ce qui est un lien assez fort avec la vie démocratique, puisque l'histoire, ça permet aussi de mettre en perspective un certain nombre de choses. Et puis ensuite, j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur, où j'ai été en fonction dans différentes préfectures, à Clermont-Ferrand notamment, et puis à La Réunion, en Outre-mer, avant de rejoindre ensuite le ministère. Et depuis 2 ans, donc, de travailler sur la question des élections, avec, en partenariat avec l'ensemble des préfectures, et notamment avec le bureau de Guillaume. Le rôle du ministère, c'est vraiment de centraliser les résultats le jour des élections, et puis en amont de définir, de faire bouger un petit peu lorsque c'est nécessaire le cadre juridique qui permet d'organiser les élections, et puis de donner beaucoup de consignes aux préfectures, de coordonner en fait l'ensemble de l'activité, et le jour J de s'assurer que dans les 70 000 bureaux de vote qu'il y a en France, les choses se déroulent correctement, et puis que le résultat soit un résultat lorsqu'il arrive qui est d'abord valable, et puis qui puisse recueillir la confiance de l'ensemble des électeurs français.
Alors j'ai déjà une question pour le prof d'histoire. Depuis quand est-ce qu'on vote en France ?
Alors on vote au suffrage universel masculin depuis 1848.
Alors suffrage universel masculin, ça veut dire que seuls les messieurs directement pouvaient voter. D'ailleurs, est-ce qu'ils mettaient une enveloppe dans une urne à l'époque ?
Alors à l'époque, l'enveloppe, j'ai pas souvenir si il y avait l'enveloppe en 1848, il n'y avait pas d'isoloir puisque l'isoloir ça date de 1913. Ça a été instauré justement pour garantir le secret du vote et qu'il n'y ait pas de vote sous influence, donc il y a eu un certain nombre d'étapes. Et la dernière étape, la plus importante évidemment, c'est le suffrage universel pour de vrai, en 1944 et pour la première fois aux élections municipales de 1945, avec le droit de vote donc, qui a été accordé aux femmes à la Libération. Et puis, dernière étape aussi importante, 1974, avec l'abaissement de la majorité à 18 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des Français de plus de 18 ans, qui ont leurs droits civiques évidemment, sont en capacité de voter.
Alors tout à l'heure, Guillaume a parlé de la sincérité du scrutin. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est ?
Alors la sincérité du scrutin, c'est le fait que l'ensemble des opérations se déroule de manière transparente. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important en France. Et c'est ce à quoi on est très attaché. Ça se manifeste notamment en amont par le respect des règles de campagne électorale. Et un principe qui est important, Guillaume parlait de la propagande électorale. Alors c'est un terme qui est un petit peu particulier puisque la propagande, on peut souvent l'associer à des régimes dictatoriaux. Mm-hmm. Parlons de programme des candidats. En France, la particularité, et c'est vraiment très français et ailleurs, nos collègues ont souvent du mal à comprendre cet aspect-là, c'est l'État qui est en charge de distribuer l'ensemble des programmes des candidats, donc c'est les fameuses enveloppes qu'on reçoit chez soi. C'est l'État qui prend à sa charge cette distribution, c'est l'État qui rembourse aussi aux candidats le coût de l'impression de ces documents. Alors parfois sous condition d'avoir atteint un certain score, mais par exemple pour l'élection présidentielle, l'ensemble des candidats se font rembourser ces documents parce que le droit électoral français est très attaché au fait que l'information doit être garantie à chaque électeur pour que justement il y ait une transparence globale sur les programmes des candidats et qu'on choisisse en connaissance de cause. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect de la sincérité, c'est le déroulé des opérations elles-mêmes, avec tout un rituel et tout un processus qui est défini très précisément dans le code électoral, depuis l'entrée dans le bureau de vote jusqu'au moment où on va mettre l'enveloppe dans l'urne, et ensuite le dépouillement, et une sincérité qui est garantie aussi par le fait que chaque électeur peut à n'importe quel moment dans la journée venir voir que les opérations se déroulent correctement et surtout assister, voire même participer s'il le souhaite au dépouillement, là aussi avec des règles qui sont très précisément définies, ce qui permet au final d'avoir un système qui certes, dans un monde aujourd'hui où le numérique prend de plus en plus de place, peut apparaître un peu vétuste parce que c'est uniquement un système qui fonctionne avec le papier, mais qui d'un autre côté, quand on regarde ce qui peut se passer dans d'autres pays, est un système qui est très robuste. Et on voit sur les derniers scrutins que même si, comme dans tous les pays démocratiques aujourd'hui, il y a une baisse de la participation électorale, il n'y a pas de remise en cause des résultats en France parce que c'est un système qui est vérifiable à chaque instant. Donc sa sincérité, elle est vraiment là-dedans, dans le fait que chacun peut s'assurer que les choses se déroulent correctement tout au long de la journée et en amont lors de la campagne électorale.
Alors si on reprend une élection du point de départ, Guillaume, est-ce que tu peux me dire, en tout cas dans ton département, et j'imagine que c'est partout de la même manière en France, qui peut candidater, comment sont connues les normes en la matière, et est-ce que vous recevez des candidatures au fil de l'eau ou est-ce qu'il y a vraiment des dates clés avant les élections ?
Alors effectivement, il y a une organisation qui se fait en amont du jour J, du jour du scrutin. Si on prend par exemple l'élection législative, personne qui souhaite être candidat, le premier réflexe, c'est qu'il va pouvoir consulter le code électoral. Les règles sont bien assises, mais ce qui va lui permettre véritablement de comprendre et d'avoir tous les détails sur sa candidature, c'est au début du mois de mai, donc pour une élection fin juin, il y aura une circulaire, c'est-à-dire, c'est un grand terme, mais en soi, c'est le mode d'emploi de la candidature.
Et ça, il faut que le candidat, il a consulté, la lire, la potasser.
Oui, ça doit être son livre de chevet en soi. Sur ce livre de chevet, il va connaître est-ce qu'il peut se porter candidat. Les règles de candidature sont rentrées dans le détail. La première, c'est qu'il faut être majeur, il faut avoir 18 ans, sauf pour les sénatoriales. Il faut également répondre à une certaine série de conditions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être candidat si on a déjà des responsabilités locales, soit en tant qu'élu, soit en tant que, notamment quand on est fonctionnaire.
C'est les règles un peu de cumul des mandats, c'est ça?
Voilà, il y a deux choses. Il y a l'inéligibilité, l'incompatibilité et le cumul des mandats.
Bon, il faut aller potasser un peu pour ceux que ça intéresse.
Clairement, l'inéligibilité, on ne peut pas être préfet et être candidat. Je suis chef de bureau, je ne peux pas me présenter en Essonne.
Si on a été condamné à une peine de prison, par exemple, on a le droit d'être candidat ?
En soi, rien ne l'interdit. La seule limitation sur la peine, c'est la peine spécifique de la privation des droits civils, civiques et de famille.
C'est quand un juge a dit « Monsieur, vous avez interdiction de… »
Spécifiquement, voilà, d'être même inscrit sur la liste électorale. Si on n'est pas inscrit sur la liste électorale, on ne peut pas également se présenter. Voilà, la deuxième condition, c'est l'incompatibilité. C'est, j'ai des fonctions, je n'ai pas de chargé de mission dans une administration. Si je suis élu député, je ne pourrai pas faire les deux. Donc je serai obligé de quitter mon emploi pour m'occuper à plein temps des fonctions de député. Et le troisième élément, c'est effectivement lié au cumul des mandats, c'est… Je suis maire d'une grande agglomération, je ne peux pas à la fois être député. Dans ce cas-là, je serai obligé de démissionner. Mais les règles sont inscrites, elles sont une
dans
certaine
cette circulaire.
Clarté.
Donc ça, c'est à peu près au début du mois de mai pour une élection, disons, fin juin.
Oui.
Et il y a une date butoir, j'imagine, qu'il faut respecter. Est-ce que les candidats y déposent au dernier moment ou ça
dépend ? Non, il y a une organisation. Parce que si on prend effectivement, nous, dans l'Essonne, on a eu, sur nos 10 circonscriptions, 108 candidats.
C'est
donc,
beaucoup.
Voilà. Donc il faut un peu d'organisation. Donc il y a tout simplement un créneau qui est fixé par la loi sur une semaine, où les candidats se présentent, ils prennent rendez-vous auprès de nous pour qu'on puisse s'organiser, pour éviter que tout le monde vienne le vendredi soir à 18h, par exemple, voilà, à la clôture des inscriptions. Et à ce moment-là, ils déposent un dossier, un formulaire et des pièces justificatives qu'on examine et sur lesquelles on donne un avis provisoire, puis un avis définitif.
Est-ce que vous êtes renforcé au moment des élections dans votre bureau ou alors c'est le… D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé combien vous étiez dans votre bureau.
Alors, dans notre bureau, nous sommes 6. Pour les déclarations de candidature, en tout cas pour l'initiative, le dimensionnement est suffisant. Par contre, pour les élections municipales, on a sur nos 194 communes jusqu'à 2 ou 3 listes, on a un nombre de listes qui peut être considérable. Donc dans ce cadre-là, on a dit ce renfort par le biais des sous-préfectures qui, elles également, mettent un dispositif en place pour recueillir les candidatures. Et c'est beaucoup plus long à examiner parce qu'effectivement, ce sont des scrutins de listes. Donc on a 15, 20, 50 noms. Donc l'examen de chaque candidature peut prendre quand même beaucoup plus de temps.
Alors qu'est-ce qu'on regarde dans les candidatures, ce que vous venez de nous dire, les principales caractéristiques ou il y a d'autres choses?
Alors les principales caractéristiques, il y a des petites subtilités entre les élections. Mais tout d'abord, il faut avoir plus de 18 ans, il faut être français. On peut être ressortissant européen et se présenter aux élections municipales et aux élections européennes. Et il faut surtout ne pas être inéligible ou… Si on est incompatible, nous, on a la responsabilité d'attirer leur attention. Attention, si vous êtes élu, vous serez dans l'obligation de démissionner ou de vous mettre en retrait de vos fonctions actuelles.
Alors, les candidats ont candidaté. Maintenant, il faut organiser. Alors, comment on s'y prend ?
Alors, tout d'abord, les candidats, il faut qu'ils financent. Tout d'abord, il faut qu'ils ouvrent un compte bancaire spécifique sur lequel seront retracées toutes les opérations liées à la campagne électorale. L'achat des bulletins de vote, l'achat des affiches, les circulaires, les professions de foi, la propagande, tous les éléments qui vont faire connaître leur position politique aux différents candidats.
Donc c'est eux qui paient, c'est eux qui mettent en page, c'est…
Tout à fait, voilà. C'est eux qui mettent en page leur bulletin de vote dans des conditions qui sont fixées par le code électoral.
Ben oui, parce que ce n'est pas toujours très, très artistique, hein. C'est quand même…
Alors
assez
nous,
normé.
Voilà, c'est assez normé sur les bulletins de vote, sur les professions de foi. Il y a assez peu de normes, donc là, ils ont une entière liberté du moment qu'ils ne nous mettent pas un gros logo bleu, blanc, rouge qui se prennent devant une mairie qui ferait croire que le document est un document officiel. C'est un peu la seule limitation.
Qui c'est qui vérifie tout ça? C'est le département? C'est au niveau national? On peut…
Non, justement, c'est dans le cadre pour garantir justement cette confiance et cette sincérité des élections, il y a 3 commissions qui interviennent. Une de ces commissions, c'est la fameuse commission de propagande. Là encore, on a un terme un petit peu…
Bizarre, mais on est
un peu étrange,
dans
voilà, c'est un terme qui date déjà de quelques dizaines d'années en soi. Cette commission, elle est présidée par un magistrat judiciaire. Donc c'est une chose importante. Le magistrat judiciaire est le gardien des libertés individuelles. C'est lui, assisté d'un représentant de la Poste, on va revenir pourquoi la Poste, et un représentant du préfet. donc vont vérifier que les bulletins de vote sont conformes au code électoral.
Et de temps en temps, il peut retoquer en disant « Ah non, c'est pas les bonnes couleurs » ou « Ça, il y a de la confusion ou... ».
Tout à fait. En soi, vous pouvez le voir, tous les bulletins de vote sont de la même taille. Voilà, il faut que ça garantit l'égal accès des candidats aux électeurs. Ils sont tous de fond blanc. Les libertés qui sont apportées pour les bulletins de vote sont assez peu nombreuses. Ils peuvent mettre des bulletins de vote avec des écritures de couleurs, mais pas deux couleurs.
Par exemple, les verts vont mettre du vert ou des choses comme ça.
Oui, tout à fait. Il y a une certaine logique en soi. Ils peuvent mettre des logos politiques, mais ils ne peuvent pas mettre un grand liseré encore bleu, blanc, rouge.
Sur le drapeau, là, ça renvoie forcément aux candidatures officielles qui existaient sous le Second Empire, donc au XIXe siècle, pour prendre le contre-pied de cette période autoritaire, hein, la Troisième République a décidé qu'on ne pouvait pas utiliser le drapeau français parce que ça serait un symbole, évidemment, d'officialité de la candidature. C'est important ce que disait Guillaume sur la question de l'indépendance de ces différentes commissions. La commission donc, dite de propagande, c'est un magistrat qui la préside, c'est la même chose. Ensuite, sur la commission de recensement qui recense l'ensemble des votes comptabilisés, parce que ça prouve bien que ce n'est pas le préfet et la préfecture au niveau local qui valide les résultats. Elle s'assure que tout est bien organisé, mais le résultat lui-même, c'est un magistrat qui va le proclamer, celui qui préside la commission de recensement. Et pour certaines élections, comme l'élection présidentielle, c'est même le Conseil constitutionnel, donc la plus haute juridiction française, qui centralise l'ensemble des procès-verbaux de France, qui les vérifie et qui joue le rôle de cette commission de recensement, mais il le fait au niveau national. Et ça, d'ailleurs, en termes d'organisation, pour nous, c'est un vrai défi, parce qu'il faut qu'en 24 heures, tous les procès-verbaux de France, c'est-à-dire métropole et outre-mer, parviennent rue de Montpensier, là où siège le Conseil constitutionnel, pour que dans les 24 heures qui suivent, ils puissent examiner, qu'ils proclament les résultats. En général, il le fait dans la journée du mardi qui suit l'élection du dimanche, et il a théoriquement jusqu'au mercredi pour se faire. Donc tout ça, c'est vraiment très important dans le processus. L'organisation, c'est le ministère de l'Intérieur via les préfectures, mais les résultats eux-mêmes, c'est un magistrat parce que ça garantit l'indépendance de cette proclamation.
Donc on a nos candidats qui ont fait leur bulletin, leur profession de foi. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, encore ?
Maintenant, il faut qu'ils fassent campagne. Alors, le déroulement de la campagne, à notre niveau, on n'intervient absolument pas sur ce domaine.
On assure leur liberté et voilà. Le respect de les normes générales.
Exactement. Là, on va intervenir, effectivement, c'est la fameuse réception dans les boîtes aux lettres des professions de foi, circulaires, propagande, tout ça, c'est le même terme.
Le programme des candidats.
Le programme des candidats, tout à fait. Donc là, effectivement, c'est une logistique assez considérable qui se met en place dans chacun des départements pour que chaque candidat puisse envoyer directement à l'adresse de l'électeur ses positions politiques.
Ça veut dire qu'on a dû vérifier les adresses.
Oui, donc les adresses...
Se complique.
Alors, les adresses, elles sont dans la liste électorale qui est tenue par les mairies. Il y a un mécanisme organisationnel qui se met en œuvre, à savoir que chaque candidat, selon les cas, en tout cas pour nous, c'est mécanisé, va remettre à une entreprise qu'on appelle un routeur. C'est le même type d'entreprise qui vous envoie, moins maintenant, mais il y en a encore un petit peu, la fameuse publicité dans vos boîtes aux lettres. Mais ils ont également cette fonction-là en vertu d'un marché avec l'État. Concrètement, le candidat, il va imprimer son programme. Il va le déposer auprès de ce routeur. Il faut se rendre compte que pour une circonscription, ça peut représenter, disons, 30 000, 40 000, 50 000 électeurs. Il va recevoir la palette de documents et, par un processus mécanisé qui est assez fascinant à voir, va prendre chaque pile de papier et va les mettre, il va les plier, les mettre par groupe de 5 et fait deux groupes de 5, puis on rajoute T2, sur lequel on va rajouter également des bulletins de vote, le tout mis dans une enveloppe ou mis sous film, sur lequel on va imprimer l'adresse et qu'on va remettre après à la poste pour envoi.
C'est des machines-outils énormes qui tournent.
Ce sont des machines-outils qui sont très spécialisées, très spécifiques, qui sont principalement utilisées pour les élections. Et le nombre de documents qui sont manipulés par ces routeurs pour un département comme les Sommes est considérable. Il faut voir les hangars de palettes de documents qui arrivent, mais j'ai fait un petit calcul la semaine dernière. Les programmes, en tout cas sur une moyenne de 7 documents pour 800 000 électeurs, ça fait 6 millions de tracts électoraux rien qu'envoyés par la poste. Les bulletins de vote, on double. Il y en a une moitié qui est donnée avec les programmes et une autre moitié qui est donnée aux mairies. Donc ça représente 12 millions
de bulletins de vote. On peut prendre directement le...
Oui. Là encore, avec les mairies, c'est aussi une logistique. Et cette logistique, elle se fait directement à la préfecture. Donc nous, on reçoit en préfecture, on a un hangar, on va recevoir nos 6 millions de bulletins de vote. Dans un premier temps, on va les diviser par chef-lieu de canton. Voilà, les chefs-lieux de canton, pour nous, sont extrêmement importants. Ils font la coordination administrative avec les communes. Donc les chefs-lieux de canton vont amener leur camion en préfecture et vont récupérer les palettes. Mais au sein même des palettes, nous, on aura déjà fait, et ça, on le fait, nous, en interne, avec notre équipe, sur laquelle on rajoute encore une dizaine de collègues, on va faire les petits cartons. On va faire les cartons, et pour la commune d'Étampes, ça fera 25 cartons, pour Évry, 50, pour Châtignonville, ça fera une enveloppe de 60 bulletins de vote.
Vous avez un peu de renfort pour vous aider dans cette manutention.
Voilà, tout à fait.
D'autres fonctionnaires ou d'autres agents de l'État
voilà,
qui viennent
tout à fait. Donc,
vous donner un coup de main.
Les agents de la préfecture, sur une journée ou sur deux journées, on va faire la manutention et la mise sous carton pour les communes.
Oui, donc tout le monde participe un petit peu. Quand on est à proximité des dates d'élection, comme ça, il y a un peu de renfort qui...
Oui, c'est un renfort qui est absolument nécessaire pour la partie organisationnelle, mais encore, qui est encore plus importante. Pour un fonctionnaire public, c'est aussi un élément important quand on travaille en préfecture, c'est la partie contrôle des procès-verbaux. Sébastien a parlé rapidement aussi de la commission de recensement. La commission de recensement, elle a deux rôles. Elle va collecter tous les résultats du département. C'est là qu'on va avoir effectivement, à compter de 20h, 20h30, les résultats qui remontent et qui seront prononcés de façon officielle. Mais il y a également un deuxième rôle, c'est contrôler tous les procès-verbaux de tous les bureaux de vote. Il y en a 890 dans l'Essonne. Nous, avec une organisation qu'on a mis en œuvre avec des anciens responsables du bureau élection, on va procéder au contrôle et regarder toutes les observations qui sont dans chacun des 890 bureaux de vote, voir s'il y a des difficultés particulières qui sont arrivées et qui pourraient mettre en péril l'organisation du scrutin.
Alors justement, on est le jour J, ça y est, c'est l'élection. Quels sont les points d'attention sur une journée d'élection à Beauvau ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on est tenu informé de difficultés qui peuvent se passer dans tel ou tel bureau de vote ? Comment ça se passe, cette remontée d'infos ? Et comment on réagit dans ces cas-là ?
Alors, d'abord, on fait une permanence qui dure du samedi jusqu'au lundi, 6 ou 7 heures du matin.
Non-stop, on ne dort pas.
Alors, on se répartit la tâche. Au bureau des élections du ministère de l'Intérieur, on est 18. Du coup, il y a aussi toute une armature qui se met en place au sein du ministère de l'Intérieur, notamment les équipes de la communication, les équipes de la direction du numérique du ministère qui sont aussi mobilisées. Donc tout ça fait à peu près entre 50 et 100 personnes qui sont mobilisées sur les grosses élections nationales. Nos points d'intention le dimanche, d'abord, c'est de s'assurer que tous les bureaux de vote ouvrent et qu'ils sont bien pourvus des 4 personnes qui doivent être présentes dans un bureau de vote, c'est-à-dire le président, qui en général est le maire dans les petites communes, ou un représentant du maire, un adjoint, un conseiller municipal. Il faut qu'il y ait un secrétaire également du bureau de vote et 2 assesseurs. Donc ces 4 personnes-là, il faut s'assurer qu'à 8h du matin, lorsqu'on ouvre le bureau, elles sont bien présentes.
Donc s'il y en a un qui est malade ou qui a eu un problème de transport ?
Remplacement, sachant qu'en permanence au cours de la journée, il faut que, bien évidemment, les gens peuvent sortir, s'absenter sur un court moment du bureau de vote, mais qu'on ait toujours 2 personnes présentes, parce que l'enjeu majeur, c'est que on a une urne. Le principe, c'est que l'urne, elle a 2 serrures, donc ça fait 2 clés. Et il faut qu'on puisse avoir 2 personnes différentes qui ont la clé pour s'assurer qu'au cours de la journée, l'urne ne sera pas ouverte. Donc ça aussi, on parlait tout à l'heure de sincérité du scrutin, c'est un élément important. Donc ça, c'est le premier point de vigilance, que tous les bureaux de vote ouvrent conformément aux règles du code électoral, et que si ça n'est pas le cas, en urgence, on puisse avoir une solution qui soit trouvée avec un renfort, un personnel de la commune souvent qui vient prêter main forte pour, de manière temporaire ou autre. Donc tous ces éléments-là, à 8h du matin, c'est le premier point d'attention.
Ensuite, si jamais il ouvre en retard, il peut durer un peu plus tard le soir ?
Non, en fait, le soir, c'est 18h, 19h pour l'élection présidentielle, et sur la base de la configuration du département, le préfet peut décider, en accord avec les maires évidemment, que ça soit jusqu'à 20h. Ça vaut notamment pour toute l'Île-de-France où on a des bureaux de vote qui ferment plus tard, parce qu'on sait que le dimanche, on a beaucoup de franciliens qui sont parfois au week-end, et donc ça leur permet de revenir pour pouvoir voter. C'est le cas aussi dans quelques grandes communes du territoire, mais c'est vraiment un choix local. Donc c'est 8h, 18h par principe, ça peut déroger jusqu'à 20h, et pour la présidentielle, la particularité, c'est qu'on vote jusqu'à 19h.
D'accord.
Ouverture des bureaux de vote, et ensuite tout au long de la journée, on peut avoir des questions diverses et variées, sachant que ce qu'on ne voit pas forcément quand on est au national, c'est tout le travail qui est fait aussi en local de contrôle des bureaux de vote. On a des magistrats qui se déplacent, alors ils font pas le tour de tous les bureaux de vote du département, mais ils vont contrôler certains bureaux de vote pour s'assurer que les opérations se déroulent correctement, qu'on contrôle bien l'identité des gens, qu'il y a bien des isoloirs, que lorsqu'on met son bulletin dans l'urne, on a bien aussi signé la liste d'émargement, puisqu'on signe tous une fois qu'on a voté. Ça, c'est un principe important. Et pour vous donner un exemple, le jour de l'élection présidentielle pour le premier tour, on a des délégués du Conseil constitutionnel, puisque c'est ce fameux conseil qui contrôle l'ensemble des opérations, qui se promènent sur le territoire national. Et en 2022, ils ont constaté dans un ou deux bureaux de vote que les choses ne se déroulaient pas exactement dans le bon ordre.
Si on fait des petites erreurs, par exemple, on signe sur la mauvaise ligne, etc., on peut rectifier.
Alors ça dépend si c'est vu sur le moment ou pas. Hein. On va avoir les listes d'émargement, c'est un document qui est très important parce qu'il est utilisé ensuite lorsqu'il y a des contentieux sur les opérations électorales. Lorsqu'on a quelqu'un qui fait un recours, la première chose qu'il va aller faire, c'est de regarder les listes d'émargement. On a aussi, entre les deux tours, quand on a deux tours sur une élection, la possibilité de consulter ces listes. Et ça, c'est très important pour la campagne électorale, parce qu'on peut regarder qui a voté, qui n'a pas voté, et du coup, cibler les gens qui n'ont pas voté pour faire sa campagne électorale. Ça, c'est l'affaire des candidats, c'est pas celle du ministère, mais le ministère, il met à disposition ces listes d'émargement en préfecture pour que les candidats puissent venir les consulter.
Est-ce que ça arrive qu'il y ait des personnes qui mettent le bazar au sein du bureau de vote ou qui fassent état de leurs opinions politiques? Est-ce que tout ça, c'est réglementé aussi? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, dans le bureau de vote, de dire pour qui on vote?
Alors, absolument pas. C'est le principe du secret du vote. La personne qui gère l'ensemble des opérations dans le bureau, c'est le président du bureau de vote.
Donc lui, il a un espèce de pouvoir de police à l'intérieur du bureau?
C'est exactement ça. Il a le pouvoir de police. La police de l'Assemblée d'un bureau de vote, c'est lui. Donc c'est lui qui décide, par exemple, lorsqu'on peut avoir aussi des enjeux, des violences ou autres, de faire intervenir les forces de l'ordre, sachant que par principe, on ne rentre pas armé dans un bureau de vote. Donc là aussi, c'est des dérogations très fortes. Donc le président du bureau de vote, c'est lui qui gère tout ça. Évidemment, sur une journée électorale, il a toujours la possibilité aussi de passer un coup de fil. Alors, à un ami, en l'occurrence son ami, le jour des opérations électorales, c'est la préfecture.
C'est le Guillaume.
C'est ça. Il appelle Guillaume, dire voilà, il se passe ça dans le bureau, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Après, on a quand même des élus, quand ils président les bureaux de vote, qui sont relativement expérimentés. Donc, et puis, par définition, nos bureaux de vote en France sont composés entre, alors sauf pour les toutes petites communes, on a un bureau de vote avec 30, 50, 100 électeurs. Dans les villes de taille moyenne, c'est entre 800 et 1200. Donc on n'est pas non plus sur une population massive et les gens se connaissent. Donc c'est aussi pour ça que les opérations se déroulent en général de manière tout à fait normale. Mais dans un bureau de vote, interdiction de manifester ses opinions. On a d'ailleurs eu un bureau de vote pour l'élection présidentielle qui a été annulé dans les Pyrénées-Atlantiques parce qu'on a un électeur qui a manifesté donc au second tour le sens de son vote. Et ça n'est pas possible. Donc le secret doit être absolu. Okay. Et le président voilà, est vraiment le garant de tout ça avec toujours... Pour revenir à la question de la manière dont nous, on suit les élections, le bureau de vote, la commune, la préfecture, le ministère. Donc tous ces filtres-là sont là pour assurer tout au long de la journée un conseil lorsqu'il y a des difficultés.
Alors il est 18h ou 19h ou 20h, le bureau de vote ferme. Concrètement, on ferme les portes, c'est ça?
Concrètement, on laisse ouvert les portes.
Ah, justement.
Parce que justement, c'est à la fin des opérations électorales, le processus électoral n'est pas terminé. Parce qu'évidemment, il faut procéder au dépouillement.
Alors comment ça se passe? Déjà, on peut venir voir?
Oui, tout à fait. Toute personne peut venir voir comment fonctionne le dépouillement, participer au dépouillement. Être là également juste pour voir comment ça se fonctionne et également potentiellement aussi si la personne estime que les opérations ne sont pas bien réalisées, faire des observations sous le procès-verbal du bureau de vote, voilà, qui pourra être considéré ou non comme un incident électoral.
Alors des fois, moi ça m'est déjà arrivé quand j'ai été votée, on me demande si je veux venir pour aider à dépouiller. C'est comme ça qu'on recrute les dépouilleurs, je ne sais pas si on les appelle comme ça.
Alors on les appelle les scrutateurs.
Les scrutateurs.
Oui, c'est plus joli.
Et le recrutement, on fait appel aux bonnes volontés. Hein. Je sais que moi aussi, on m'a souvent proposé. Alors malheureusement, le dimanche, je ne suis pas disponible à l'heure où on dépouille, puisque moi je suis à Paris pour centraliser les résultats électoraux. Mais c'est vrai que ce sont les électeurs du bureau qui sont mobilisés. L'idée... c'est qu'on ait, alors c'est un fonctionnement qui est très précis, qu'on ait un nombre de personnes, tous rattachés à une table, et ensuite on décompte les bulletins et on les classe par centaines.
Donc c'est des petites tables qui ont chacun un tas de bulletins, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Donc la première étape, c'est le président du bureau de vote va clôturer les opérations de vote, va regarder si dans la file il reste encore des électeurs qui souhaitent voter. Donc quand il décide à partir de cette... voilà, il prend la file, il va décider, tout le monde va pouvoir voter, ou à partir de cette personne, les opérations sont terminées.
Okay.
Donc il va déclarer terminer les opérations de vote. Il va procéder à l'ouverture de l'urne. Donc l'ouverture de l'urne se fait publiquement, effectivement, avec les deux clés, qui est par le président et l'assesseur de son choix qu'il a déterminé au début de la journée. Donc on prend l'urne, on verse l'urne délicatement et on va commencer à faire des petits tas.
Okay.
On va faire des petits tas de 100 bulletins. ces tas de 100 bulletins vont être mis dans une enveloppe. Ces enveloppes vont
être
transparentes ? Non, c'est une enveloppe crabe, c'est juste de l'organisation. Okay. De toutes les façons, sur le compteur qui est sur l'urne, sur le...
Ah oui, il y a marqué le nom.
Il y a le nombre de personnes qui a voté. Donc, ça n'a aucun caractère réglementaire. Ça sera vérifié par rapport aussi à la liste d'émargement. Donc, on fait nos petits paquets de 100 bulletins et on le remet à une table. À cette table, il y a 4 scrutateurs. Chacun a son rôle. Il y a une personne qui va ouvrir l'enveloppe, qui va ouvrir l'enveloppe et la passer à son voisin de droite ou de gauche. Cette personne va lire à haute voix le nom de la personne ou de la liste. Et en face, il y a 2 scrutateurs qui vont avoir une feuille, qui vont faire des petits bâtons qui vont indiquer,
pour compter,
pour dire telle personne a eu telle voix. Donc jusqu'à 100. Donc ce mécanisme...
Et au bout de 100, on vérifie que les 2 scrutateurs ont le même...
Et, oui, évidemment. Sur la feuille de dépouillement, si les résultats sont identiques, le dépouillement c'est bien réalisé. Après, il y a la question des blancs et des nuls. Les blancs.
Ça se complique.
Les blancs, c'est facile. Soit c'est un bulletin blanc.
Voilà, un
papier blanc, peu importe la taille. Ça peut être une enveloppe vide. Mm-hmm. Un bulletin blanc, c'est une enveloppe
vide.
Et
si on a griffonné, c'est quoi ?
Alors là, on passe au bulletin nul.
Voilà. Parce qu'il y en a qui mettent des noms d'oiseaux ou des petits commentaires.
Oui, effectivement, nous...
On
constate l'imagination des électeurs qui veulent faire passer des messages lors du scrutin. Mais ça peut être effectivement un nom qui est rayé, une tâche, un dessin ou un autre élément qui n'a rien à voir.
Et ça, c'est lu à la table ? Comment ça se passe ? Ou on dit juste c'est un bulletin nul ?
Alors, dès qu'un cas de nullité qui sont définis par le code électoral est constaté, le bureau, c'est-à-dire le président et les assesseurs, vont prendre une décision pour qualifier ce bulletin comme nul.
Parfois, il peut y avoir des doutes, effectivement.
Tout à fait.
Et on les garde, on les affiche, on en fait quelque chose, on les exploite, parce que ça veut dire quelque chose aussi.
Alors, c'est très important, ça.
Alors, c'est important. Effectivement, sur les bulletins nuls, c'est la particularité, ils sont joints au procès-verbal. Ils vont faire l'objet d'une vérification par l'équipe de contrôle de la préfecture, sous la responsabilité de la commission de recensement présidée par un magistrat. Donc on ne peut pas déclarer nul n'importe quel bulletin sous prétexte que c'est une liste qui ne conviendrait pas aux personnes qui ont fait le dépouillement ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un contrôle supplémentaire. Il faut savoir aussi que, c'est pour la partie historique, les bulletins nuls sont échantillonnés par la préfecture pour être versés aux archives départementales. Donc d'ici 50 ans, en consultant, on peut savoir un petit peu les... cas de bulletin nul, donc on va se faire un
donc
devoir de conserver.
On rentre un peu dans la postérité quand on marque un petit nom d'oiseau sur le bulletin.
Potentiellement, oui.
Ok.
Voilà, c'est à notre appréciation qu'on fait la partie d'archivage. Dès que les bulletins sont dépouillés, que la première centaine est réalisée, il faut savoir que les opérations, il n'y a pas qu'une seule table. Il peut y avoir jusqu'à 4-5 tables en fonction du nombre d'électeurs. À partir de là, le président du bureau de vote, il va marquer table 1, tant de voix pour tant de voix. Il va faire un petit tableau avec, il va collationner, il va recenser tous les bulletins, tous les votes dans son bureau de vote. Et il va indiquer les résultats dans le procès verbal. Le procès verbal, quand vous avez voté, vous pouvez demander à le consulter. Vous verrez, c'est assez simple, c'est le déroulement de 8 heures jusqu'à la clôture des opérations de tout ce qui a pu se passer.
Donc ça, c'est les résultats officiels qui remontent ainsi.
Oui.
Rien à voir avec les résultats qu'on appelle sortis des urnes. Qu'on entend dans les médias.
Alors, les résultats qu'on entend dans les médias, c'est les résultats que nous, on collationne. Donc, on a chaque bureau de vote, 70 000 bureaux de vote, qui dépouille selon le process que Guillaume vient d'indiquer. Une fois que c'est fait, le bureau de vote envoie les résultats, alors, soit à la commune, si on a plusieurs bureaux de vote dans une commune, soit directement à la préfecture. La préfecture, elle consolide l'ensemble de ces résultats. Ces résultats ont été proclamés dans le bureau de vote, mais ils ne sont pas encore définitifs. C'est des résultats provisoires, donc des résultats sortis des urnes. Le ministère, avec une application informatique, les centralise. Et les chiffres que l'on voit le dimanche soir, lorsque à la salle des fêtes du ministère de l'Intérieur, la presse est présente et on voit souvent en arrière-plan des résultats qui évoluent au fur et à mesure de la remontée des résultats de tout le territoire national, ce sont des résultats qui sont toujours provisoires. Donc les résultats donnés par le ministère de l'Intérieur, jusqu'à en général 1h, 2h du matin, à 2h du matin on a à peu près tout récupéré au niveau national, ce sont des résultats qui sont provisoires tant que ces fameuses commissions de recensement qui se réunissent en général au petit matin, le lundi, et jusque vers midi, parfois le début d'après-midi quand c'est un peu compliqué, proclament le résultat définitif. Donc le résultat définitif, il n'intervient que dans ce timing-là, mais le résultat provisoire consolidé que le ministère de l'Intérieur donne, c'est un peu plus tôt. Et en général, il y a des petites évolutions justement parce qu'il y a des bulletins nuls qui ont été mal décomptés, parce qu'il y a eu une erreur dans le comptage qui finalement est vérifiée et corrigée. Mais En général, l'écart est assez minime, mais c'est très important de bien différencier résultats provisoires donnés par le ministère de l'Intérieur et résultats définitifs.
Comment on se sent après une élection? On se sent peut-être un peu tout bête parce qu'on a tellement travaillé pour que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on fait les jours qui suivent?
Alors déjà, j'imagine, Guillaume, on dort un petit peu. mais ensuite, il y a un autre aspect important. L'élection, elle n'est pas forcément complètement terminée parce que derrière, il peut y avoir des recours. Des candidats battus qui contestent le résultat de l'élection. Il y a toujours un délai qui est laissé. Alors sur l'élection législative, par exemple, c'est 10 jours pour pouvoir contester le résultat de l'élection.
Alors on dort, mais pas trop, parce que ça se peut qu'on se remette à beaucoup travailler pour les recours, c'est ça?
À vrai dire, on dort pas, très peu ou pas. C'est ce qui m'est arrivé entre les départementales et les régionales, entre les deux tours. À la suite des opérations électorales, le contrôle est arrivé. On était sur un régime de double scrutin, donc deux vérifications, deux commissions de recensement. Nous avions terminé les opérations de recensement à 4 heures du matin. Et à 8 heures du matin, on était là pour prendre les préparer pour qu'à 9 heures, on prenne les déclarations de candidature pour le second tour. Donc c'était absolument une journée sans dormir. Et à vrai dire, c'est qu'effectivement, pour tous les scrutins, si on prend par exemple le deuxième tour législatif, on a terminé certes aux alentours de 2 à 3 heures du matin sur les résultats. À 9 heures, on a la consultation des listes qui sont là pendant 10 jours.
Vous faites un sacré métier.
Oui, c'est des périodes effectivement qui sont très très intenses en période électorale. Mais effectivement, consultation des listes, mais il y a également, selon la nature des élections, la partie contentieux électorale qui peut intervenir. Le préfet n'intervient quasiment pas dans le contentieux électoral. Il peut intervenir uniquement sur les municipales et les départementales, sur des erreurs de transcription de résultats ou des erreurs formelles dans les procès-verbaux, des communes qui ont fait le résultat, mais qui ont oublié, par exemple, de remplir l'annexe pour proclamer officiellement tel ou tel candidat élu. Donc on intervient principalement sur les questions de rectification à la marge des résultats.
Bah, je pense qu'on ne verra plus du tout les élections de la même manière aujourd'hui. On vient de sortir des sénatoriales. Est-ce que vous, Guillaume, vous avez eu une élection que vous préférez parmi toutes celles que l'on a, européennes, municipales, présidentielles? Est-ce que vous avez une petite préférence?
Alors, ma petite préférence, c'est les départementales. Ah. Pourquoi départementales? Parce que on a 21 cantons. Avec 8 à 9 candidats par canton. Donc la logistique qui a à mettre en œuvre, c'est la plus compliquée, à la fois pour les candidatures ou pour l'organisation proprement dite, effectivement assez prenante.
Donc c'est ta préférée parce que c'est là où il y a le plus de travail.
Il y a plus de travail et c'est là où on a le plus de candidats et le plus de difficultés, plus de pouvoir d'intervention.
En tout cas, à travers toi, bravo à tous nos collègues en préfecture qui travaillent sur ces thématiques qui sont vraiment au cœur de la démocratie et dans notre quotidien. Et toi, Sébastien, est-ce que tu as une petite préférée parmi les élections?
Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la période qui suit les élections.
Ah, c'est là où on a le moins de travail.
Alors, c'est pas celle où on a le moins de travail, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, et c'est ça aussi qui fait un peu l'unité de tous les gens qui travaillent dans ce métier-là. C'est qu'une fois que l'élection est terminée, on va faire un retour d'expérience. Et on s'appuie d'ailleurs sur tout ce que nous dit chaque préfecture. Et ce retour d'expérience, on l'écrit. En général, c'est un document de 30, 40 pages. Et il a vocation à être utilisé par les gens qui seront là pour la prochaine élection de même nature. Et qui leur permettra de dire ça a marché, ça n'a pas marché, là il faut faire telle modification dans le code électoral, parce qu'on fait aussi beaucoup de choses en amont des élections qu'on ne voit pas forcément, mais des petites choses qui bougent pour justement améliorer le fonctionnement de la vie démocratique. Et après l'élection que je trouve la plus fascinante, c'est l'élection municipale, parce qu'en fait c'est 35 000 élections sur l'ensemble du territoire national, c'est 1 million de candidatures au total quand on accumule le nombre de personnes qu'il y a sur les listes, donc c'est vraiment un moment qui est... En termes de vie démocratique, où la France, on dit il y a beaucoup de communes en France, beaucoup trop, etc. Ce jour-là, on a vraiment une élection où l'ensemble du pays se mobilise, mais chacun sur des circonstances très locales. Et je trouve qu'en termes de vie démocratique, c'est là où on voit la vigueur finalement d'une vieille démocratie comme la France. C'est la capacité encore à se mobiliser sur des problématiques politiques qui relèvent d'enjeux très locaux. Et ça, c'est important. Peut-être autant, évidemment, l'élection présidentielle, c'est l'élection majeure. Et on parlait de documents tout à l'heure, il y a 1 milliard 200 millions de bulletins de vote qui sont imprimés pour l'élection présidentielle. C'est très visible et c'est très important évidemment en termes de fonctionnement et c'est celle à laquelle les Français participent le plus, entre 75 et 80% de participation sur cette élection-là. Mais l'élection municipale, c'est vraiment celle qui révèle la vie démocratique française dans toute sa profondeur. Donc moi, je suis très attaché à celle-là.
Eh ben, merci vraiment à tous les deux pour vos témoignages. C'était passionnant, on a appris plein de choses et vraiment, on ne verra plus aucune élection de la même manière et on aura... Une petite pensée pour vous tous, les jours qui précèdent, les jours qui suivent. En tout cas, merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.